Habituellement, quand on étudie la généalogie d'une grande figure historique, ou tu sais, la fondation d'une nation, on s'attend à trouver une histoire officielle bien propre.
Ouais, on aime la clarté en général.
Exactement. On veut un arbre généalogique nickel, avec des lignes droites, une succession évidente. C'est rassurant, quoi. Mais bah, dès qu'on se penche sur l'Antiquité, et plus particulièrement sur l'histoire des patriarches bibliques, ce bel arbre bien taillé, en fait, il se révèle être un buisson d'épines totalement chaotique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Genre, c'est fait de tromperies monumentales, de rivalités toxiques et de luttes acharnées.
Et c'est fou, parce que l'ironie là-dedans, c'est que notre instinct moderne, on cherche toujours à lisser le passé. On veut des héros parfaits, des lignées impeccables. Or, les textes anciens, bah, ils refusent souvent de nous accorder ce confort.
Ah oui, il ne me cache rien.
Non, ils exposent les failles avec une crudité qui est assez étonnante.
D'accord, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour comprendre les fondations mêmes d'Israël, il faut vraiment plonger dans l'une des périodes les plus intenses de ce chaos originel.
Absolument.
Du coup, notre mission pour cette exploration en profondeur s'appuie sur les notes de cours de la conférence 27 du docteur Robert Van Noy. C'est un spécialiste de l'histoire de l'Ancien Testament. Et l'objectif ici, c'est pas juste de refaire le récit de la Genèse que beaucoup connaissent déjà.
Ouais, l'arrivée de Jacob à Haran, tout ça.
Voilà, ces mariages compliqués, sa fuite. Non, le but, c'est d'extraire les pépites de psychologie, de culture, et surtout l'ironie théologique qui se cache sous la surface de ces chapitres, de 29 à 32.
C'est fascinant parce que...
Parce que ce drame familial millénaire, sérieusement, ça ressemble à un scénario de série à suspense, où genre la fraude contractuelle croise le mysticisme.
Tout à fait ça. Et si nous relions cela au contexte global, l'enjeu dépasse très largement la simple querelle domestique. C'est une étude vraiment magistrale de la collision entre des stratégies humaines qui sont souvent bah, frauduleuses et complètement désespérées, et un plan divin qui avance de manière implacable. Toute la question, en fait, c'est de comprendre comment une nation entière a pu naître d'une structure familiale aussi lycéenne.
Oui, profondément dysfonctionnel, ouais.
Bah, commençons par la fondation de cette famille qui repose littéralement sur une arnaque. On connaît un peu la scène. Jacob, il arrive à Haran et il passe un accord. Il travaille 7 ans pour épouser Rachel, la fille cadette de Laban.
Cette longue année, ouais. Et lors de la nuit de noces, dans l'obscurité, Laban glisse Léa, la sœur aînée, dans le lit nuptial. Et ce qui me fascine ici, c'est le profil psychologique de Jacob, quoi.
Ah, le trompeur.
Mais c'est ça, son nom même signifie le trompeur. Il a manipulé son frère Ésaü, il a menti en plein visage à son père aveugle Isaac. Et là, c'est l'équivalent antique d'un arnaqueur professionnel ultra confiant qui entre dans un casino et qui se fait complètement plumer par la maison.
C'est une très bonne image.
Son propre oncle s'avère être un escroc d'un tout autre niveau. Comment un tel manipulateur a-t-il pu tomber dans un piège aussi grossier?
Eh ben, en fait, le texte joue très subtilement sur cette idée d'aveuglement. Jacob, comme tu l'as dit, il a profité de la cécité physique de son père pour voler une bénédiction dans l'obscurité. Et là, Laban utilise l'obscurité de la nuit, et très probablement le voile nuptial traditionnel, pour rendre Jacob, métaphoriquement aveugle.
Ah, la rétribution est poétique, en fait.
Complètement. Le karma biblique, si on veut. Et quand Jacob exige des explications au petit matin, l'excuse de Laban est d'un cynisme absolu. Il invoque soudainement une règle culturelle très stricte. Il lui dit que bah, on ne marie pas la cadette avant l'aînée dans leur pays.
Une règle qu'il avait opportunément oublié de mentionner 7 ans plus tôt lors de la signature du contrat.
Exactement. C'est vraiment de la mauvaise foi à l'état pur.
Ce qui m'amène d'ailleurs à un point de confusion très fréquent, et je m'assurais qu'on comprenne bien la chronologie établie par le docteur Van Noy. Et sur ce point, on s'imagine souvent que Jacob, en se réveillant avec Léa, a dû serrer les dents et travailler 7 années supplémentaires de dur labeur avant d'avoir enfin le droit d'épouser Rachel.
Ouais, c'est une idée reçue qui est hyper tenace. Mais elle est inexacte. Les termes du nouveau contrat imposé par Laban sont redoutables, certes, mais différents. Laban lui dit qu'il doit simplement terminer la semaine de festivités nuptiales avec Léa, donc 7 jours, après quoi Rachel lui est immédiatement donnée comme seconde épouse.
Attends, sérieux? Seulement une semaine plus tard?
Ouais, une semaine. Mais le paiement, lui, est différé. Jacob s'endette en temps de travail. Il s'engage pour 7 années supplémentaires pour payer cette seconde dot. 10 jours. Et ligoté par un contrat de servitude pour encore 7 ans.
8 jours pour épouser 2 sœurs. Non mais au-delà de l'endettement, c'est une véritable poudrière relationnelle. On se doute bien que ça ne peut absolument pas fonctionner.
Ah bah l'exégèse de cette situation souligne à quel point elle est destructrice. Épouser 2 sœurs de leur vivant, ça crée une rivalité si toxique que la législation biblique ultérieure, dans la loi mosaïque, l'interdira formellement.
Ah oui, c'est interdit plus tard.
Oui, dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, verset 18, très exactement. La loi viendra interdire précisément ce schéma, parce que ça viole l'ordonnance originelle de la monogamie, et ça détruit le tissu familial de l'intérieur par le jalousie. Et les conséquences ici, elles ne se font pas attendre.
J'imagine.
Tive. Dieu ouvre le ventre de Léa, elle devient extrêmement fertile, tandis que Rachel, l'épouse aimée, découvre qu'elle est stérile.
Ce qui déclenche une véritable course à l'armement reproductif. C'est terrifiant d'observer comment la maternité devient une arme de destruction massive dans cette guerre froide entre les deux sœurs. Léa enchaîne les fils, elle a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, et à chaque naissance, elle espère acheter l'amour de Jacob.
C'est très triste en fait.
Et Rachel riposte, jalouse, elle utilise la même méthode que son ancêtre Sarah, elle jette sa propre servante, Bilha, dans les bras de Jacob pour obtenir des enfants par procuration. Et paf, ça donne Dan et Nephtali. Rachel voit ça comme une victoire totale sur sa sœur.
Ouais, une victoire par procuration.
Sauf que Léa réplique en faisant exactement la même chose avec sa propre servante, Zilpa. Et voilà, Gad et Aser. Franchement, je regarde ça et je vois des êtres humains réduits à l'état de simples pions sur un échiquier. Tout ça pour gagner une guerre psychologique.
C'est exactement ça. L'illusion du contrôle humain atteint ici son paroxysme, quoi. Chaque camp tente de forcer le destin. La souffrance est palpable, même dans les noms donnés aux enfants. Ce sont de véritables déclarations de guerre ou des cris du cœur. Rachel s'écrit même avoir mené un combat divin contre sa sœur. C'est l'illustration tragique d'une famille qui s'autodétruit pour forcer une bénédiction.
Et ce besoin désespéré de contrôle, ça nous amène au fameux incident des mandragores.
Ah, les mandragores.
Ruben, le fus aîné de Léa, trouve ses racines pendant la moisson des blés. Ce sont des plantes réputées pour favoriser la fertilité. Rachel les veut absolument et un véritable marchandage s'organise. Rachel propose un échange à Léa. Elle cède une nuit d'intimité de Jacob à Léa en échange des racines. C'est fascinant d'absurdité. J'ai l'impression d'assister à l'échange d'un billet de loterie gagnant contre un vulgaire trèfle à 4 feuilles.
C'est une excellente comparaison.
Bah oui, Rachel a déjà l'affection du mari, elle a l'opportunité constante d'intimité, mais elle cède cette réalité tangible contre une plante au pouvoir hypothétique.
C'est parce que la superstition supplante complètement la raison. Dans le Proche-Orient ancien, les mandragores étaient perçus comme un aphrodisiaque et un remède souverain contre la stérilité. Rachel, dans son désespoir total, elle place sa confiance dans la botanique et la magie plutôt que dans le divin. Et c'est là que l'ironie théologique du récit frappe le plus fort.
Parce que les méthodes humaines échouent face à l'intervention divine, c'est ça, hein ?
Exactement. L'auteur biblique démonte méthodiquement l'efficacité de ces superstitions. Le résultat de la transaction est sans appel. Rachel obtient sa plante magique, mais elle ne conçoit rien du tout. À l'inverse, Léa, qui a donné les mandragores, tombe enceinte et donne naissance à un 5e fils, Issachar, puis à un 6e, Zabulon, et même à une fille, Dina.
L'ironie du sort est cruelle.
Les méthodes humaines s'effondrent. Et ce n'est que bien plus tard, de manière totalement déconnectée de cet incident botanique, que le texte précise sobrement « Dieu se souvint de Rachel ». Elle enfante enfin Joseph et plus tard Benjamin, dont la naissance lui coûtera d'ailleurs la vie. La naissance est un acte de pure souveraineté divine qui balaye les plantes magiques et les manigances.
Et du coup, toutes ces manigances finissent tout de même par produire les acteurs de la future nation, les fils de Jacob qui formeront les fameuses 12 tribus d'Israël. Mais en épluchant l'analyse du docteur Van Hooy, on se rend compte que l'arithmétique n'a rien d'évident. C'est même extrêmement complexe.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la ligne de la promesse navigue à travers ce chaos. Logiquement, on s'attendrait à ce que la lignée royale passe par Joseph, le fils favori, le fils du miracle.
C'est ce qui semblerait logique.
Et pourtant, la ligne se rétrécit finalement sur la tribu de Judas, le 4e fils de la femme mal-aimée, Léa. C'est de lui que sortira plus tard la maison de David.
Et même la liste des 12 tribus, c'est ce qui m'a le plus surpris. On en parle comme d'un conte bien rond, 12 fils, 12 territoires. Mais en réalité, on dirait du pur redécoupage électoral, du gerrymandering.
Comment ça ?
On déplace les frontières, on remplace des groupes, tout ça pour que le chiffre arrive obstinément à 12 à la fin, Comment fonctionne cette comptabilité créative?
Ah, je vois. En fait, la clé réside dans le statut de certaines tribus. Prenez Lévi. Lors de la division de la terre par Josué, bien plus tard, la tribu de Lévi ne reçoit aucune portion de terre.
Aucune.
Non, selon des villes lévitiques éparpillées, car Dieu est leur héritage. Ils s'occupent du sacerdoce. Donc sur la carte géographique, on perd une tribu. Ensuite, Siméon subit un déclin et se retrouve pratiquement absorbé par l'immense territoire de Juda au sud. Il disparaît presque.
D'accord, donc on perd Lévi et Siméon s'efface. Il faut bien compenser pour arriver à 12 territoires.
Et la compensation se prépare de manière spectaculaire, à la fin de la vie de Jacob en Égypte. Dans Genèse 48, Jacob adopte officiellement les deux fils que Joseph a eus avec Asnath, Éphraïm et Manassé. Il les élève au même rang que ses propres fils.
Ah, donc Joseph est remplacé par ses deux fils, pour faire le compte.
Voilà. Et au moment de les bénir, Jacob pose un geste incroyable. Joseph amène ses fils, plaçant logiquement l'aîné Manassé sous la main droite de son père aveugle et le cadet Éphraïm sous sa main gauche. Et Jacob croise les bras de manière tout à fait délibérée.
Il bénit le plus jeune de la main droite au détriment de l'aîné, malgré les protestations de Joseph.
Exactement. Il perpétue ce renversement de l'ordre naturel. Et l'histoire lui donnera raison. Éphraïm deviendra si dominant au nord que tout le royaume du nord portera souvent son nom.
C'est captivant. Mais revenons un instant en arrière, à la jeunesse de la nation et surtout à la rupture avec Laban. Jacob reste probablement une vingtaine d'années à Haran. Il augmente considérablement ses troupeaux, ça crée des tensions énormes, et Dieu lui ordonne de partir. Il fuit en secret avec ses femmes.
Une fuite rocambolesque, oui.
Mais dans ce départ, Rachel vole les idoles domestiques de son père, les Téraphim. J'avoue que je ne comprenais pas. Pourquoi Laban lance une expédition punitive massive juste pour de petites statuettes païennes?
L'analyse historique propose deux théories. La première, basée sur les documents archéologiques de Nuzi, suggère que ces Téraphim représentaient les droits d'héritage. Laban craignait peut-être que Jacob ne revienne un jour réclamer tous ses biens fonciers.
Ah, mais c'est de l'espionnage industriel, en fait. Rachel vole l'acte notarié du domaine.
C'est une façon de voir, oui. La deuxième théorie, soutenue par l'historien Joseph, dit que c'était de la pure superstition païenne. Rachel les aurait volés pour obtenir une protection ou empêcher son père d'utiliser la divination pour les retrouver.
Quoi qu'il en soit, Laban les rattrape, Rachel cache les idoles dans la selle de son chameau et prétend ne pas pouvoir se lever à cause de la coutume des femmes.
Ses menstruations, oui.
Le tabou la sauve. Et là, ça devient vraiment intéressant. Il conclut un accord à un amas de pierres appelé Galéhed ou Mizpah, et Laban lâche cette phrase: que le Seigneur veille sur toi et moi quand nous nous serons perdus de vue. J'ai vu ce verset sur des cartes de vœux hyper affectueuses.
Ah oui, le fameux verset de Mizpah.
Mais au vu du contexte, c'est l'inverse absolu. C'est l'équivalent antique d'un chef de la mafia qui dit « Que Dieu te garde, mon gars, car si tu franchis cette ligne, je ne réponds plus de lien. » C'est une malédiction conditionnelle, pas une bénédiction amicale, non.
L'exégèse valide complètement cette lecture cynique. Ouais. Le verbe « veiller » a le sens de surveiller. Laban dit en gros « Je ne peux plus te punir moi-même, donc je délègue à Dieu le rôle de t'écraser si tu maltraites mes filles. » C'est une frontière de guerre froide.
Et à peine débarrassé de Laban, Jacob doit affronter son passé, son frère Ésaü, qui avait juré de le tuer 20 ans plus tôt. Les messagers reviennent et annoncent qu'Ésaü arrive avec 400 hommes. Jacob est terrifié.
La panique totale.
Il utilise sa vielle rusuenne. Il divise son camp en deux à Mahanaïm, espérant qu'un des deux survive. Et il envoie une vague massive de cadeaux. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes.
Un transfert de richesse colossal.
Et il dit à ses serviteurs de répéter que c'est un cadeau du serviteur Jacob pour son seigneur Ésaü.
Il s'abaisse complètement.
Mais la nuit, au guet du Jabok, Jacob reste seul. Et là, il lutte physiquement avec un homme, l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, comme le mentionne le prophète Osée, jusqu'à l'aube. Son emboîture de la hanche est déboîtée.
Un coup d'une violence inouïe.
Mais Jacob refuse de lâcher prise sans une bénédiction. Son nom passe de Jacob, dérivé de tromper, à Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et il nomme le lieu Péniel, la face de Dieu. J'ai l'impression que c'est comme un joueur d'échecs magistral qui, prêt à faire échec et mat, avec ses cadeaux, réalise soudain que son adversaire joue au poker et que ses pièces ne valent plus rien. Pourquoi Dieu devait-il le briser physiquement pour le bénir ?
C'est essentiel. Jacob réalise qu'il ne peut pas entrer en Canaan par ses propres forces. Tant qu'il pouvait courir ou manipuler, il était autosuffisant. En déboîtant sa hanche, Dieu annihile sa capacité à fuir Ésaü ou à se battre. Il est acculé à la fois. Jacob passe de la peur des hommes à la crainte de Dieu.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? On a l'arc complet d'un arnaqueur ultra confiant à un homme qui entre en terre promise en boitant. L'escroc est devenu un homme boiteux mais béni, marquant la naissance d'Israël.
C'est la fondation, oui.
Et de la plus grande bénédiction de Jacob était une blessure permanente, sa hanche déboîtée. On peut se demander dans quelle mesure les boiteries de la société moderne, nos vulnérabilités durables, nos échecs monumentaux, ne sont pas en fait la fondation secrète de nos plus grandes forces. C'est peut-être une invitation à repenser ce qu'on considère comme une faiblesse.